Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver ce matin. Après pas mal, hein? Après un bon temps de vacances que nous avons pu passer en famille. C'est aussi pour moi l'occasion de vous remercier pour vos prières. Je sais qu'il y a beaucoup qui nous ont soutenus par la prière, notamment pour la première semaine de juillet, parce qu'avec Myriam, on a pu diriger un camp avec la Ligue pour la lecture de la Bible. On a accueilli 54 enfants entre 10 et 14 ans. Et puis à nouveau, on a été bénis par notre Père. On a vraiment vécu des moments forts. Et puis aussi au niveau de l'équipe de moniteurs et de direction, on a pu vivre ça dans l'unité et l'harmonie. Alors c'est vraiment des exaucements de prière. Et puis vous y êtes pour quelque chose. Alors merci. Et puis après, le reste du temps, c'était du temps en famille, de détente et de repos. Tout est relatif parce que les enfants, ils n'ont toujours pas grandi entre-temps. Donc, c'était, voilà, un repos particulier. Je vous invite à prendre la suite et puis à me suivre avec moi, si vous le voulez bien, sur la montagne de nouveau. La dernière fois qu'on était monté sur la montagne avec Jésus, c'était début janvier. Alors, c'était il y a un petit moment. Je vous invite maintenant à prendre la suite. Seulement maintenant, début août, pour nous mettre à sa suite de Jésus lorsqu'il décide de s'asseoir au milieu de ses disciples pour les enseigner sur la montagne, avec les foules également. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples, ce que nous voulons être ce matin, vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Quelques petits rappels. La montagne dans la Bible, c'est vraiment ce lieu particulier où on se met à l'écoute de Dieu. Plusieurs choses se sont passées sur la montagne de la Bible. C'est notamment le cas avec Moïse qui reçoit les tables de la loi, c'est sur la montagne. Et là, au tout début de son enseignement, parce que c'est le premier enseignement de Jésus dans les évangiles à ses disciples, qu'est-ce qu'il choisit ? Il choisit de se mettre aussi sur une montagne pour enseigner ses disciples. C'est vraiment pour nous aussi un symbole fort pour nous Suisses, hein. On l'a vu ce matin avec la photo que Sébastien a choisie. Quand on pense à la Suisse, on pense souvent aux montagnes. Donc je pense pour nous, ça nous touche particulièrement le fait que Jésus et Dieu choisissent souvent ce lieu de la montagne pour nous parler. En tout cas, moi, ça me parle. Et puis, il y a cette attitude particulière de celui qui s'assoit au milieu de ses disciples. Or là, ça peut partir. Ce matin, on ne met pas tellement en pratique cet aspect-là, puisque je ne m'asseye pas au milieu de vous, puis ce n'est pas à moi de le faire. Mais on peut imaginer Jésus vraiment qui s'asseye au milieu de nous et qui nous instruit. C'est vraiment l'attitude du maître qui instruit ses disciples, ce maître que nous sommes appelés à suivre. Jésus, dans le même temps, il a ses disciples près de lui, si vous imaginez la scène, mais il y a toute une foule aux alentours. Puis Jésus nous a dit qu'il voit cette foule qui a besoin d'enseignement. Il voit cette foule qui est là et qui a besoin d'enseignement. Moi, je vois ça comme étant toute cette ville, cette région qui nous entoure et qui a peut-être besoin de nous, c'est ce que j'ai pu dire dimanche passé, comme témoin, comme lumière du monde, comme celle de la terre. C'est ce qui va se passer pour la suite. On va méditer ce matin deux autres, ce qu'on appelle béatitudes, c'est-à-dire des paroles de sagesse qui commencent toujours par cette formule « Et heureux êtes-vous ». Et puis, je vous donne juste quelques petites balises d'interprétation, quelques manières d'interpréter ces béatitudes. La première, qui est hyper importante, c'est toujours de prendre ensemble les deux aspects du texte. Vous allez voir, il y a toujours « Heureux », par exemple, « Les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Si on prend seulement le premier terme, c'est un peu cynique de la part de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, puis je vous laisse comme ça. Il n'y a rien qui se passe. Ce serait un peu débile de prendre les choses comme ça. Donc toujours apprendre dans les deux sens, les béatitudes vont ensemble. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est vraiment hyper important, sinon on commet des non-sens et puis on ne comprend rien à ce que Jésus veut nous enseigner. Deuxième chose, c'est un peu plus subtil là, parce que tous les exégètes ne sont pas forcément d'accord là-dessus, mais d'après moi, je vous invite à le prendre plutôt comme un texte de sagesse que qu'un texte de loi. Ce n'est pas une des normes éthiques qu'on essaye de vivre dans nos vies. Je crois plutôt que Jésus décrit la réalité de la vie et quel regard on peut porter sur cette réalité de la vie avec l'aide de Dieu. C'est différent hein, comme perspective. C'est de se dire, c'est pas ce que j'essaye à tout prix de faire et puis de me mettre une charge incroyable, mais c'est plutôt ce que j'essaye de vivre et quel regard est-ce que je porte sur la vie, la réalité. Moi, j'aime bien dire souvent que Jésus, c'est pas un illuminé qui connaît absolument rien de notre réalité. Il connaît hyper bien la réalité dans laquelle nous sommes et sur cette réalité, il pose son regard, le regard de Dieu. Et puis, c'est ce que nous disent ces textes de sagesse. Et le dernier point, c'est vraiment que ces textes des Béatitudes sont centrés sur Jésus, sur la croix, la mort et sa résurrection. C'est lui seul qui a pu incarner, c'est-à-dire vivre complètement et pleinement ces textes, ce qu'il nous enseigne. Nous, on peut essayer de marcher à sa suite, le mieux que l'on peut, mais seul Jésus a vécu pleinement et complètement ce qu'il a enseigné. Ça reste pour cela, comme on l'a dit, ce maître qu'on essaye de suivre. Ce maître qui est là devant nous et qui est notre exemple suprême. On a le privilège d'avoir un texte là qui n'est pas juste des élucubrations philosophiques, mais on a cette chose extraordinaire en tant que chrétien d'avoir ce Dieu qui est venu sur terre et qui nous a montré l'exemple par sa vie. C'est unique, hein? Il y a beaucoup de choses dans la vie, dans la philosophie, où c'est des élucubrations qui sont finalement assez théoriques. Avec la foi chrétienne, on a quelque chose de différent, puisque ce maître est venu mettre en pratique ce qu'il a enseigné. Ce n'est pas simplement une visée de l'esprit. Alors, je vous invite à lire la suite avec moi. Les deux premières qu'on a pu méditer en janvier. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ce qu'on avait pu dire, c'est que c'était vraiment cette idée, dès le début, de dépendance totale à Dieu. Ce n'est pas une glorification de la non-intelligence ou de la simplicité, c'est une glorification de notre propre statut, c'est-à-dire un statut de pécheur qui a besoin de Dieu. C'est ça, être pauvre en esprit. C'est signifier notre dépendance à Dieu. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Là, on avait pu avoir quelques réflexions sur la douceur, sur notre manière d'être les uns avec les autres. Et les deux qu'on va méditer ce matin, qui sont complexes, difficiles à entendre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et la suite que je vous lis, parce que toutes ces paroles forment un tout. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Amen. De nouveau, on retrouve cette idée d'un bonheur qui est complètement déroutant. Alors que nous, on est tenté de prendre la ligne droite, la facilité, Jésus nous propose la tangente. Il propose quelque chose de fondamentalement différent du bonheur tel qu'il est pensé par nos contemporains. C'est vraiment le ou la caractéristique de ces béatitudes, c'est que c'est un bonheur déroutant. La première béatitude, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce n'est pas n'importe quel pleur dont il est question dans ce texte, mais un faisceau d'indices nous pense à dire que c'est vraiment les pleurs que les personnes éprouvent lorsqu'ils sont en deuil. C'est la blessure de la perte d'un être cher, d'un être aimé, des pleurs de souffrance, des larmes, tout ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est en deuil. Bizarre hein, de dire « heureux ceux qui pleurent de ces pleurs de deuil ». De nouveau, ça ne s'arrête pas là, mais ce n'est pas pour autant que la première partie elle est zappée. On ne passe pas tout de suite à la consolation. Jésus prend le temps de s'arrêter sur une des réalités les plus difficiles de notre vie sur terre, c'est que la mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Ses blessures font partie de la vie. On n'est pas dans une foi chrétienne, de nouveau, qui propose que des temps de bénédiction, que des temps de félicité, où tout va comme sur des roulettes. J'avais un prof d'école dimanche qui me disait toujours, n'allez jamais croire que la vie chrétienne, ce sera comme si vous êtes avec une paire de pattes à roulettes en douce descente, sans jamais aucun caillou qui passe, et que vous n'allez jamais tomber. C'est vraiment pas ça, la vie chrétienne. Et Jésus est clair là-dessus. Il n'est pas en train de nous faire croire ce que la réalité n'est pas. Ces pleurs sont donc des pleurs de deuil. Situation de souffrance, des blessures qui sont fortes. Et la suite de la béatitude nous dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Alors vous notez tout de suite qu'il y a une difficulté là-dedans, c'est quoi la difficulté ? C'est que le verbe, il est au futur. Comment est-ce comprendre ce verbe futur ? Est-ce que c'est simplement que la consolation arrivera à la fin des temps ? C'est une manière d'interpréter les choses, c'est certainement vrai, que la consolation véritable va venir à la fin des temps. Mais je crois que c'est aussi déjà vrai pour nous maintenant, que ce Dieu qui console est une réalité pour nous croyants. Parce que ce Dieu qui console a déjà passé par la mort et par la résurrection sur la croix. Cette résurrection à Pâques, c'est ce qui nous donne cette vie et cette relation à Dieu qui nous permet d'être consolés déjà aujourd'hui. Tout n'est pas pour le futur, même si dans le futur, ce sera réalisé pleinement. Il y a plusieurs versets, qui nous le mentionnent dans la parole. Je vous en ai mis toute une série là. Puis, on va juste les lire simplement ensemble, parce que je trouve qu'ils sont beaux et encourageants. C'est Paul dans ta lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit de la mort ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Où est ta force ? Cette mort, elle a été vaincue définitivement à la croix, et c'est le centre de notre foi. Si on arrête d'y croire, on arrête de croire en la force de la résurrection. Déjà dans Ésaïe, c'est aussi un texte qu'on a médité ensemble au mois de novembre, où Dieu dit à son peuple, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour ses péchés. » Là, on trouve déjà dans l'Ancien Testament, dans ces promesses magnifiques d'Ésaïe, ce Dieu consolateur. Aussi un texte magnifique que je ne connaissais pas, c'est un auteur qui m'a suggéré ce texte-là. Dans Apocalypse, « Car l'agneau qui est au milieu du trône, ça je me souvenais de la note de Dieu évidemment, qui est au milieu du trône, les fera paître et les conduira aux sources des eaux de vie. » Et qu'est-ce qu'il fait Dieu à ce moment-là, lorsqu'il se réveille ? Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est de nouveau un texte qui fait écho au prophète Ésaïe, où il dit « Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. » C'est ce qui s'est passé en Christ. « Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. » C'est le Seigneur qui parle. Vraiment ces images fortes d'un Dieu qui essuie les larmes de son peuple. Qui essuie pas les larmes de manière forcément individuelle, qui essuie les larmes de son peuple. Et puis finalement, je l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais ces magnifiques promesses dans Jean 14, où il nous est dit que le Saint-Esprit, comment il est appelé dans Jean ? Le Consolateur, exactement. Cette personne de la Trinité, le Saint-Esprit, il porte ce nom lui-même de Consolateur. C'est lui qui vient nous consoler dans nos vies, par sa douce présence, il vient nous consoler. Pas extraordinaire d'avoir un Dieu comme ça, qui console même dans les situations les plus douloureuses de nos vies. Puis là, ça m'a fait penser à une remarque qu'on entend vraiment très fréquemment, en tout cas moi quand je cause avec mes potes non chrétiens, c'est la remarque avec L majuscule que j'entends toujours, c'est « Comment ça se fait, David, que tu crois en un Dieu qui permet tant de souffrances ?» qui permet tant de mauvaises choses, qui est si finalement insensible à la souffrance. Et vu sous cet angle, cette béatitude, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, on a un peu de la peine à comprendre cette critique. On a de la peine à comprendre cette critique qui voit Dieu comme quelqu'un qui est tenu comme responsable de toute souffrance de la terre. On est vraiment extrêmement loin de cette perspective de Dieu qui console. C'est presque impensable d'en arriver si loin. Et pourtant, si vous interrogez des personnes dans la rue, c'est fréquemment ce qui va sortir sur l'image qu'ils ont de Dieu, que c'est un Dieu insensible, qui permet la souffrance, qui permet le mal et qui fait absolument rien. Là, de nouveau, on est complètement déroutant dans notre foi. Parce que nous, au contraire, on croit en un Dieu qui vit et qui habite dans la souffrance, au plus profond de ce qu'elle est. Nous croyons en un Dieu qui nous accompagne dans les temps de deuil, car ça fait partie intégrante de qui est Dieu, de sa personne, de sa Trinité, de ce Saint-Esprit consolateur. Le Père n'a-t-il pas été en deuil lorsque le Fils a donné son dernier souffle? Le Fils n'a-t-il pas dû faire le deuil de sa relation avec Dieu lorsqu'il s'exprime sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non seulement la Bible et ce qu'on sait de Dieu nous parlent de tout cela, mais dans nos expériences propres, dans nos expériences de vie, je crois qu'on peut aller dans le même sens. Je crois qu'on est aussi là ce matin parce qu'on a pu expérimenter, un jour ou un autre, la consolation de Dieu sur nos vies, la consolation de Dieu lorsqu'on était dans des souffrances profondes. Et nombre de personnes sont déjà venues me confier, soit à la Ligue, même ici déjà, que Dieu avait séché leurs larmes, qu'il avait pris en compte leurs souffrances, leur deuil, et qu'il avait pu leur apporter sa consolation. On est vraiment là, frères et sœurs, au cœur de la bonne nouvelle, au cœur de l'Évangile, savoir ce Dieu qui s'est fait proche de nous, des femmes et des hommes qui devront passer par des moments de souffrance. À nouveau, on est appelé à considérer ensemble les deux propositions de la béatitude. En restant scotché sur le premier terme, « heureux ceux qui pleurent », on réagit comme des gens sans foi ni espérance. En ne prenant en compte que le deuxième terme de la proposition, juste la consolation, ce qu'on a peut-être plus tendance à faire, on agit comme des personnes qui nient la réalité terrestre dans laquelle nous sommes appelés à vivre. En quelques mots seulement, cette phrase de sagesse venant de Christ, elle opère une synthèse percutante et vraie. En quelques mots, elle prend en compte la réalité de la douleur et de la souffrance, tout en ouvrant une voie pour aller au-delà de cet état de fait. En tant que texte de sagesse, les béatitudes ne nous permettent pas de sauter par-dessus la réalité, mais de la regarder, de l'appréhender avec un regard neuf, autre, qui ne vient pas de nous, mais de Dieu. C'est ce que signifie le passif du verbe « être consolé ». Nous ne sommes pas les artisans de notre propre consolation. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces pour être consolés, mais en tant que croyants, on place notre confiance, notre foi en Dieu qui, lui, nous console. Et là, de nouveau, on constate ce décalage par rapport à nos contemporains. Si nous leur disons de compter sur Dieu pour être consolés, au mieux, nous aurons droit à du respect, au pire, à la condescendance. Genre, regardez-moi ce pauvre homme. Il a besoin de Dieu dans sa faiblesse, alors laissons-le à ses chimères. Tout cela s'explique d'ailleurs très bien psychologiquement. Alors, qui d'autre que nous pour porter ce message de foi et d'espérance, même au cœur du deuil? Il ne s'agit pas de zapper le temps de deuil, je ne crois pas que c'est ce que j'ai voulu dire, ni de vouloir se conformer à une loi qui voudrait que nous soyons consolés à tout prix, et qu'il faut que nous soyons consolés, sinon on est de mauvais chrétiens. Mais c'est une loi qui nous invite, c'est un texte qui nous invite, pardon, à vraiment aller au-delà de la réalité, à se dire que si nous on réagit dans ces situations exactement comme tout le monde, puis qu'on reste scotché seulement sur les pleurs et le deuil, où est finalement notre espérance? Je ne dis pas que ça doit arriver, évidemment, dans un laps de temps, mais par contre, on est vraiment appelé à lever les yeux vers Dieu et à croire dans cette consolation, parce que c'est là le cœur de notre bonne nouvelle. C'est là ce qui fait la différence de notre foi et pour notre foi. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consoler. Béatitude qui nous dit que nous n'avons pas affaire à un Dieu insensible, mais complètement différemment à un Dieu qui s'est fait proche de nous et qui nous touche dans nos vies quotidiennes. Cette action de sécher les larmes, il y a vraiment un contact quasiment physique de la part de notre Dieu. La deuxième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La première question que je me suis posée, c'est peut-être la même que vous vous posez aussi, dans une société qui est complètement rassasiée, est-ce que c'est encore possible d'avoir faim? Est-ce qu'on peut encore avoir faim? Et en plus, faim et soif de quoi? De la justice de Dieu. Et puis, l'après-midi où j'ai médité le plus intensément cette béatitude, c'était mardi après-midi, j'ai décidé de remonter en vélo à Saint-Sergue. Je suis descendu en vélo le matin, ça va, c'est la partie facile de la journée. Et le soir, j'ai décidé de remonter en vélo jusqu'à où j'habite. J'habite un peu à l'écart du village, encore un kilomètre du village, vous aurez sa petite importance. Alors je commence ma montée gaiement, parce que j'aime beaucoup faire du sport, et arrivé à Trélay, c'est quand même pas très très loin, je sens déjà que j'ai une fringale de compète qui est en train de s'installer. J'ai vraiment hyper faim. Mais comme j'ai juste mon vélo, que je n'ai pas pris de natel, ni même une pièce de 5 francs, ni rien du tout, je suis obligé de continuer. Et je continue, virage après virage, chaque virage devient très très pénible. Et le summum de la pénibilité arrive lorsque je passe à côté de la boulangerie à Saint-Sergue, parce que je suis quand même arrivé à Saint-Sergue, et que je n'ai même pas pu m'arrêter pour croquer dans une bonne bouchée de pain, mais qu'est-ce que ça m'aurait fait envie. Puis je me suis dit, il y a quand même un petit clin d'œil, en tout cas de Dieu, là, l'après-midi où je médite le plus cette faim et soif de la justice, voilà que je me tape une immense fringale, comme ça ne m'était plus arrivé depuis longtemps, en remontant à Saint-Cergue. Et je vous dis que là, véritablement, j'ai eu faim. Et qu'est-ce qui arrive quand on a faim? Alors, je suis arrivé à la maison, je me suis précipité sur le premier paquet de biscuits ouvert, je n'ai même pas regardé ce que c'était, et j'ai mangé jusqu'à ce que je sois rassasié. Mais il y a vraiment une envie qui était quasiment irrépressible, sinon, voilà, il y aurait peut-être eu d'autres éléments qui seraient venus. Mais là, c'était vraiment impressionnant de me voir, ça faisait longtemps que j'avais plus eu faim, et c'est très, très rare dans notre société. Donc, comment est-ce qu'on comprend encore cette béatitude, nous qui sommes rassasiés des biens de ce monde, on dit toujours? Comment est-ce qu'on comprend cette faim et soif de la justice? Puis la deuxième question qu'on peut se poser par rapport à cette faim et soif de la justice, c'est de se poser de quoi est-ce qu'on a faim? Je vous laisse peut-être quelques instants pour réfléchir individuellement. De quoi est-ce que nous avons faim? Qu'est-ce qui nous motive? C'est le paquet de biscuits à la fin du culte ou bien à la fin de la montée en vélo, ou c'est peut-être autre chose. De quoi est-ce que nous avons faim? On a vraiment ces deux questions dans notre société. Est-ce que c'est encore possible d'avoir faim? Et si oui, de quoi? Pour Matthieu, la réponse est assez claire. Déjà, je pense que c'est possible d'avoir faim à son époque, contrairement à ce que nous expérimentons. Et pour lui, le but ou l'objet de la faim, il est aussi extrêmement clair. Dans les Bibles françaises, on ne le voit pas très bien parce que c'est souvent ceux qui ont faim et soif de justice, puis c'est un peu la justice qui pourrait être prise dans un sens général. Dans le texte en grec, il y a vraiment l'article devant justice, donc c'est vraiment ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est pour ça que je l'ai mis en majuscule. Et puis pour Matthieu, c'est aussi extrêmement clair que la justice, c'est la justice de Dieu à la lumière nouvelle de Jésus-Christ. Et donc ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, c'est ceux qui ont faim et soif de se conformer à la volonté de Dieu. On parle beaucoup de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a faim et soif de se conformer à sa volonté? C'est en gros ce que nous dit cette parabole. cette béatitude, pardon. Pratiquer la justice, c'est vivre conformément aux exigences de Dieu. Un peu plus loin, dans Matthieu 5, 20, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples ? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est rude, hein ? C'est de nouveau le Jésus radical qu'on voit là. La justice est vraiment cette fidélité nouvelle avec laquelle le croyant est appelé à mettre en pratique la loi telle que Jésus, le maître de la loi, l'a réinterprétée. Puis là, si vous avez envie pour la suite de cette semaine, vous pouvez lire la suite de ces chapitres, hein, Matthieu 5, 6, 7. C'est vraiment expliciter quel est le contenu de cette justice. On va certainement pouvoir le méditer ensemble, mais c'est des textes qui peuvent être lus des centaines de fois sans qu'on s'en lasse. C'est un thème, la justice, qui est absolument central chez Matthieu. Qu'on le retrouve à plusieurs endroits, non seulement avec ce texte-là de justice qui doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, mais aussi la dernière béatitude, je ne sais pas si vous avez fait attention, la seule béatitude qui est répétée deux fois, c'est cette notion de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Et la dernière, heureux ceux qui sont persécutés, pourquoi ? Pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Il y a encore un autre texte qu'on connaît très bien, toujours dans le Sermon sur la montagne, qui nous parle de la justice. Je suis sûr que vous le connaissez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Donc il y a vraiment un faisceau de textes là qui nous montre l'importance de la justice de Dieu pour Matthieu et pour nos vies aussi. La première chose qu'on peut mettre en évidence par rapport à ça, c'est que ce n'est pas ma propre justice dont il est question. C'est la justice de Dieu. Ça tombe sous le sens. Hein? On parle de la justice de Dieu, ça tombe sous le sens, mais c'est quand même hyper profond quand on y pense. Parce que combien de fois on est super fort pour mettre en œuvre notre propre justice ? Puis on croit évidemment que c'est la meilleure d'entre tous. Et on croit qu'on a justement le regard juste sur les choses, parce qu'on est quand même les plus à même d'avoir ce regard juste. Le croyant, il est appelé à se nourrir et avoir faim et soif de la justice de Dieu, cette justice de quelqu'un d'autre. Ce n'est donc pas ma propre justice. Cette justice, autant le savoir tout de suite, parce que sinon on peut se lancer dans des idéaux qui ne seront jamais atteints, qui ne sera jamais complètement réalisée ici-bas. Et dans ce sens-là, c'est une justice qui met en évidence peut-être une de nos maladies, qui peut être notre justice au rabais, justement. La justice de Dieu, qui ne sera jamais complètement réalisée ici-bas, c'est exactement le contraire de ce qu'on appelle souvent les BA, ou les bonnes actions. Aujourd'hui, j'ai fait ma BA. Ah, c'est bon, je suis soulagé de ma mauvaise conscience, je peux continuer d'aller un peu plus loin. Ça fait, en général, plus de bien à celui qui fait l'acte qu'à celui qui le reçoit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué aussi ça. Nous, on est très satisfaits parce qu'on a fait notre BA aujourd'hui, donc on peut aller se coucher le cœur léger et dormir sur nos deux oreilles. Mais finalement, celui qui a reçu notre BA, peu important. La bonne action, c'est vraiment l'exemple même de sa propre justice, ou alors des ersatz de justice, des chimères de justice, des éléments que l'on croit pouvoir pratiquer et qui vont réaliser la justice. On doit accepter avec une vraie humilité que cette justice ne sera jamais complètement réalisée ici-bas, car elle appartient à Dieu qui va la réaliser complètement lorsque son royaume sera là. Et ça va nous éviter de fonder notre propre justice et de vouloir réaliser nos propres réalisations. Ce n'est pas que ça nous appelle à rien faire du tout, mais il y a tellement de personnes qui se sont fracassées en vouloir établir une nouvelle terre, des nouveaux cieux, déjà ici-bas, que c'est impossible de ne pas prendre en considération toutes ces expériences. Ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire quand Jésus nous dit « Ayez heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». On n'est pas appelé à additionner toutes ces petites actions, puis en pensant qu'on a rendu un monde meilleur. On sait que le monde ne va pas changer. Par contre, on est appelé à sa suite à poser ses actes de justice en toute dépendance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui sera notre propre réalisation, notre propre entreprise. Et c'est là la nuance qui est peut-être subtile entre ces petites actions, ces bonnes actions, qui croient qu'ils nous font du bien plus à nous qu'aux autres, et ce que nous demande vraiment Dieu, c'est-à-dire de nous conformer à sa volonté. Je ne sais pas si vous saisissez cette subtilité, c'est ce que j'essaie de vous faire passer, mais c'est vraiment de se dire que rester sur notre faim, c'est un signe de santé, un signe de bonheur absolu, tel que celui qui nous est présenté dans ces paroles de Jésus. Le fait de rester sur notre faim nous gardera éveillés et actifs. C'est lorsque l'on se considère déjà comme rassasié ici-bas que peut-être il y a un problème, une question à se poser. C'est l'envie de la justice, c'est la force qu'on y met, l'entrain qu'on y met qui est valorisé, pas la réalisation effective. Et de nouveau, là, c'est hyper difficile à comprendre pour nous parce qu'on vit dans une culture du résultat et du contentement. Il nous faut prouver qu'on a fait ça, ça, ça et ça et que c'est bien. Moi, j'ai une épouse qui travaille dans le domaine du travail social et de plus en plus, elle est appelée à devoir prouver que ce qu'elle fait, c'est bien parce que sinon, elle ne reçoit plus d'argent, tout simplement. Il nous faut du résultat, il nous faut montrer et se rassurer sur le fait qu'on fait quelque chose de bien. C'est hyper important. Donc attention à notre justice au rabais. Et cette justice, effectivement, elle est révélée pleinement de nouveau en Jésus-Christ. C'est une des balises d'interprétation que c'est centré sur le Christ. Et puis là, on le voit parfaitement dans le procès qui est intenté à Jésus. À la fin du chapitre, pendant le chapitre 27 de Matthieu, comment est considéré Jésus par la femme de Pilate? Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Donc de nouveau, cette centralité sur Jésus qui lui a accompli cette justice. Et de nouveau, si vous voulez voir le contenu de cette justice, plongez-vous dans la suite des écrits de Matthieu, ça vaut la peine. La question que je nous laisse maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de cette envie de conformité à la justice de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'on a encore le courage, comme dit Paul, de s'examiner soi-même? Puis là, moi, je trouve qu'il y a un véritable enjeu. Parce qu'on sort de décennies de règne néfaste de la culpabilité. Ça a vraiment fait des dégâts qui sont immenses. Culpabilité, on ne sait jamais si on fait juste, si on fait faux, du coup on ne fait plus rien. Il y a vraiment une force qui est là à combattre de toutes nos forces, justement. Mais il reste ces interpellations de savoir est-ce qu'on a encore faim et soif? Peut-on encore trouver une voie pour s'examiner soi-même et discerner si nous nous éloignons de ce que Dieu veut pour nos vies. Est-ce qu'il existe encore une voie pour savoir si on fait la volonté de Dieu ou pas, sans tomber dans l'écueil de la culpabilité? Pour moi, ça reste une vraie question. Et puis, en réfléchissant un peu pour préparer cette prédication, je vous dis qu'une des voies privilégiées, définitivement, peut-être le moment qu'on va vivre tout à l'heure, ce moment de la scène, où on a l'occasion de s'examiner soi-même, en communauté et surtout en communion avec notre Sauveur. On a la chance et la grâce, chaque dimanche quasiment, de pouvoir prendre ce temps de stop dans nos vies. Et c'est aussi un temps de stop, pas pour qu'on en ressorte complètement abattu par la culpabilité, mais pour s'examiner soi-même face à ce Dieu qui est le maître de la justice et le maître de la consolation, face à ce Dieu qui nous offre son pardon. On peut y aller auprès de cette table en toute confiance, puiser à nouveau les forces qu'il nous faut pour affronter la semaine qui vient en essayant de faire la volonté de Dieu, en ayant faim et soif de cette justice. À cette table, on peut déposer en toute honnêteté, car il nous connaît, on l'a chanté avant, nos fardeaux, nos faiblesses, nos manquements, pour être en phase avec la justice voulue par Dieu dans nos vies. Et alors, on pourra, à mon avis, être rassasié par Dieu. De nouveau, c'est une tournure passive. Ce n'est pas moi qui produis ma propre justice, mais celui qui me rassasie, comme celui qui me console, c'est Dieu. Ils seront rassasiés. Nous serons rassasiés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? À mon avis, le bonheur, c'est de pouvoir refléter ce que Dieu fait dans nos vies. Comme on l'a dit pour la consolation, si nous, on n'est pas témoin de cette consolation que Dieu nous donne, qui d'autre le sera? Si nous, on n'est pas témoin de cette justice que Dieu veut nous faire vivre au sein des hommes, qui d'autre le sera? Nous pouvons essayer de suivre l'exemple du Christ et par là même témoigner, rendre visible la justice qui vient d'en haut à travers nos actes aspirés et la consolation reçue, le fait d'avoir, par exemple, des visages reconnaissants, rassasiés de la grâce de Dieu. Deuxième pensée que j'aimerais vous laisser, c'est que heureux, une des significations en hébreu, c'est Alain Chouraki qui l'a mise en évidence, il comporte une dimension dynamique où ça peut se comprendre vraiment comme une mise en marche. Et c'est l'encouragement que j'aimerais vous laisser, c'est de se dire, est-ce qu'on arrive à refléter le Christ dans nos vies et cette invitation à vous mettre en marche? On va chanter un chant maintenant, puis vous pouvez venir, l'équipe de louanges, qui dit ceci, « Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Amen.